En ce mois de mai 2021, nous comptons plus de 6 millions de chômeurs sans aucune activité ou en activité dite réduite, soit les catégories dites A, B et C confondues. L'année 2020 a connu une hausse du nombre de chômeurs de 7,5%. Malgré une légère accalmie en ce début d'année, le chômage est reparti à la hausse et peut nous laisser relativement inquiets pour les mois à venir. Mais ce qui peut davantage inquiéter les futurs chômeurs, c'est la réforme de l'assurance chômage prévue pour ce 1er juillet. En pleine crise sanitaire, cette réforme fait hurler toutes celles et ceux qui comprennent les rouages et les conséquences de cette réforme. Car la plupart d'entre nous ont du mal à saisir l'impact que cette réforme peut avoir sur leur avenir. Complexe, le calcul des droits au chômage échappe à la plupart des travailleurs. Obscur, la machine assédique communique difficilement avec celles et ceux qui aimeraient mieux savoir comment ils et elles vont être indemnisés. Pourtant, beaucoup tentent d'alerter autant que possible. Cette réforme va réellement creuser des inégalités déjà criantes. Alors que beaucoup perdent leur emploi ou ne parviennent pas à en trouver, les nouvelles indemnisations risquent de les mettre dans des situations impossibles. Et cela dans une relative indifférence. Le chômage ne concerne pas qu'une catégorie à part de la population. Il concerne presque tout le monde. Car le travail lui-même s'est profondément transformé ces dernières années. De plus en plus fréquemment, le travail est partiel. On travaille un temps, puis on se retrouve sans emploi pendant quelques semaines ou quelques mois. Cette manière d'embaucher tend de plus en plus à devenir la norme, indépendamment de la volonté des travailleurs eux-mêmes. Alors, pourquoi les punir quand ils arrivent au chômage? Pourquoi modifier à la baisse leurs indemnisations alors que les employeurs ne garantissent pas la continuité ou la pérennité de l'emploi? Pourquoi faire des économies de quelques milliards sur eux lorsqu'on fait des cadeaux fiscaux indécents aux familles et aux entreprises les plus riches de France? Cette réforme de l'assurance chômage, nous allons essayer de l'expliquer le plus clairement possible et tenter également de voir si d'autres solutions ne seraient pas mieux venues dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui.
Vous êtes des champions. En France, le patrimoine des ultra-riches est le plus indécent du monde, multiplié par 5 en 10 ans. Si le SMIC avait suivi, il serait de 4 800 € par mois. En France, les entreprises du CAC 40 versent 51 milliards d'euros aux actionnaires, plus 22% en un an. Le FMI et l'ONU plaident pour une hausse de l'impôt sur les riches et les profiteurs de crise. Le Royaume-Uni va augmenter ses impôts sur les sociétés. Les États-Unis veulent taxer les plus riches. Et vous, que faites-vous? Vous voulez faire 2,3 milliards d'euros d'économies sur les personnes privées d'emploi et plonger plus d'un million de Français dans la misère. Vous voilà donc à tripatouiller notre système d'assurance chômage. Bon, le Conseil d'État a d'abord censuré une bonne partie de vos mesures en vous reprochant des inégalités d'allocation allant de 1 à 4. Vous avez revu votre copie et les écarts iront désormais de 1 à 50. Bravo, des champions, vous dis-je. Déjà 6 chômeurs sur 10 non indemnisés, des licenciements à gogo depuis le Covid-19, 1 million de chômeurs en plus, mais vous continuez à servir les riches et à voler les pauvres. Avec votre réforme, Thomas, qui a travaillé 10 mois en continu avec un salaire de 2 800 €, percevra 1 492 € de chômage. Laura, qui elle aussi a travaillé 10 mois avec le même salaire, mais alterné avec des périodes de chômage, recevra, elle, 31 € d'indemnité. Les 7 millions de chômeurs de notre pays devront non seulement deviner quelle rue traverser pour trouver un emploi, mais ils devront aussi penser à commencer leur chômage le premier du mois. Attention, selon si vous êtes au chômage, à partir du 1er, du 7 ou du 14 du mois, vos indemnités pourront drastiquement baisser. Jamais un gouvernement n'aura porté une attaque aussi grave sur le fondement même de l'assurance chômage. Monsieur le Premier ministre, on ne joue pas aux apprentis sorciers quand on ne sait pas compter sur ses 10 doigts. Abandonnez cette réforme indigne dont personne ne veut. Luttez enfin contre le chômage et non contre les chômeurs. Et sachez une chose, le seul chômeur que l'on espère en 2022, c'est Emmanuel Macron.
Bonjour à toutes et à tous. La personne que vous venez d'entendre qui est un peu en colère, c'est Mathilde Panot, qui est députée LFI et qui s'adressait dans le cadre des questions au gouvernement au Premier ministre. C'était le 4 mai dernier. Nous allons aujourd'hui essayer donc de répondre à cette question liée à la réforme de l'assurance chômage qui est annoncée pour le 1er juillet. Pour y répondre, nous avons pensé qu'il était bien de pouvoir avoir des interlocuteurs un peu différents, mais aussi d'aborder, et ça ce sera dans une deuxième partie, une petite réflexion autour de la question du travail aujourd'hui. Nous verrons ça tout à l'heure avec Jérémy qui est psychologue du travail. Mais en attendant, pour cette première partie, nous avons invité deux personnes. Claire qui est avec nous. Bonjour Claire.
Bonjour.
Et nous attendons dans un instant également Jacques qui travaille à la Maison des chômeurs et qui est sur le chemin, qui doit arriver. Nous le saluerons dès qu'il rentrera dans ce studio. Claire, je te laisse te présenter un peu. Tu es mobilisée en ce moment en tant qu'intermittent du spectacle, mais pas uniquement en tant que ça. Je te laisse te présenter toi-même.
D'accord. Donc je suis Claire, je suis comédienne, metteuse en scène de théâtre. J'enseigne aussi. Et je suis donc intermittente du spectacle. Alors, je suis mobilisée en tant qu'intermittente. Je suis mobilisée aussi en tant que membre de la coordination des intermittents et précaires, qui s'est créée en 2003, et du CINAVI, qui est le syndicat national des arts vivants.
Cette commission qu'on entend nommer CIP, c'est ça?
La CIP, voilà. Je suis là occupante à titre, on va dire, multiple, pluriel.
Oui, oui.
Et cette question de l'assurance chômage, c'est quelque chose qu'on commence à bien maîtriser, puisque le mouvement unitaire qui caractérise l'occupation du Centre chorégraphique national à Montpellier a une longue histoire déjà comment est-ce qu'on lutte en collectif. Et notamment sur ces questions, c'est des questions, l'assurance chômage, on va dire le travail, le métier et l'emploi, qu'on commence, qui est au cœur et au centre de notre indemnisation et de notre régime spécifique d'assurance chômage, qu'est l'intermittence. Voilà.
Alors, on va en donner les détails. Ce qui est intéressant, c'est effectivement le parcours qui est le tien, et j'ai envie de dire le vôtre, parce que tu es au sein d'un collectif. Depuis 2003, c'est bien ça?
Oui, depuis 2003. En fait, en 2003, il y a eu le rapport Ariagon. Donc, c'était une réforme de l'assurance chômage. L'alerte nous avait été donnée peut-être un peu tard. On était peut-être un petit peu moins mobilisés dans ces années-là. La CGT Spectacle avait fait quelques appels du pied, mais on était peu à être mobilisés. Mais tout à coup, au début juin 2003, on commence à comprendre comment est-ce qu'on va être passé à la moulinette avec cette réforme. On nous l'explique et on occupe l'Opéra Comédie. On se fait vider par l'espèce de bac local.
Donc l'Opéra Comédie, ici à Montpellier.
Oui,
donc,
à oui. Montpellier. Et de là, en fait, ça a complètement enchaîné les journées de contestation qui ont suivi, avec 200 personnes. On était 80, on s'est retrouvés 200. Et c'est la fameuse réforme qui a entraîné l'annulation du Festival d'Avignon cet été-là. Ensuite, il y a eu, et donc ce mouvement s'appelait Culture en danger, était plutôt entraîné par la CGT Spectacle. À l'époque, je crois qu'il y avait Force Ouvrière aussi. On était tous assez liés dans la lutte. Et de ce mouvement contestataire est né à Avignon la coordination des intermittents et précaires, qui par la suite s'est constituée en véritable organisation, on va dire, d'expertise des métiers du spectacle vivant et surtout des conditions d'emploi discontinu. Donc comment Parce qu'il faut savoir qu'en 2003, je vous donne un chiffre, au bout d'un an, 40% des musiciens en Languedoc-Roussillon avaient perdu leur droit à l'intermittence. Donc 2003, ça a été extrêmement problématique parce qu'on est passé d'un système de mutualisation à un système de capitalisation des droits. Et ça, c'est au cœur de la problématique de l'indemnisation d'assurance chômage.
Alors, on va revenir en détail. Là, tu nous situes à peu près sur cette période de 2003. Mm-hmm. Et ce qui va nous intéresser, c'est également les années qui ont suivi jusqu'à 2014, notamment, qui était un moment clé pour vous également, un moment de mobilisation. On va y revenir dans un instant. Jacques nous a rejoint entre-temps dans le studio. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Jacques, tu travailles à la Maison des chômeurs de Montpellier, donc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est la Maison des chômeurs et quelle est ta fonction à toi au sein de la Maison des chômeurs?
Oui, bien sûr. La Maison des chômeurs a été créée en janvier 1994. Moi, j'ai adhéré à la Maison des chômeurs, je crois que c'était au mois d'août 1994, donc tout au début. D'ailleurs, j'ai même la carte numéro 6 des adhérents.
Tu fais partie des tout premiers, donc.
Ouais. Voilà, tout à fait. Donc, j'ai fait partie des tout premiers combats. Et donc, depuis septembre 2013, je suis salarié à la Maison des chômeurs. Et depuis 2015, je suis le coordinateur de l'association. Globalement, ça veut dire directeur. Mais dans le cadre associatif, vu qu'on a des fonctions un peu différentes, on appelle ça coordinateur.
D'accord. Donc, cette Maison des chômeurs, elle s'inscrit, je crois, il me semble, au sein d'une structure un petit peu plus large en France. C'est une association qui s'appelle CREÉ, c'est ça?
Non, la fédération s'appelle le Mouvement National des Chômeurs et Précaires, MNCP, donc qui existe depuis 1986. Nous, d'accord, on a rejoint la fédération en 98. Donc, cette fédération regroupe actuellement une quarantaine d'associations en France et dans les dom-toms, puisqu'on a deux associations à La Réunion et une à la Guadeloupe. Et donc 37 sur le territoire français, avec des fonctionnements parfois différents, certains fonctionnant sur le statut de maison des chômeurs. Donc il y a un certain nombre comme ça. Alors, le statut de maison des chômeurs, il faut respecter une charte dont l'article 1er, en fait, c'est la défense des droits des chômeurs et des précaires. Et l'article 2, l'accueil inconditionnel des personnes. Donc on reçoit absolument tout le monde. Si on voit qu'on n'est pas compétent, on peut les réorienter. Et si c'est de notre compétence, on traite les dossiers, c'est-à-dire on fait des recours devant Pôle emploi lorsqu'il y a des problèmes d'indu ou de radiation abusive. On fait à peu près le même travail avec l'URSA. Donc c'est le département, mais c'est également la CAF, puisque c'est la CAF qui gère le dossier RSA. On a également des permanents qui travaillent sur l'allocation handicapée, sur la MDPH, sur la reconnaissance de travailleurs handicapés, la RQTH. On a également une commission qui s'occupe du logement, donc on a appelé le SLAM, ça veut dire soutien au logement, aide et maintien. Voilà, on a tout un tas de structures, comme ça, qui sont là justement pour essayer d'appréhender la totalité du spectre de l'action sociale. Et donc on s'étend de plus en plus dans ces domaines-là.
Donc on est d'accord que du coup la maison des chômeurs, c'est pas uniquement pour les chômeurs. C'est aussi pour, tu l'as dit tout à l'heure, des personnes en situation de précarité, de difficultés sociales. Donc vous êtes ouvert, votre maison des chômeurs est ouverte à un nombre assez large de personnes.
Voilà,
tout à fait. Des catégories assez diverses.
C'est ça, tout à fait. Donc je parlais des chômeurs, des travailleurs précaires, des personnes qui sont en stage. D'ailleurs, on peut même les orienter vers des stages, vers des formations diverses. Je parlais des personnes handicapées, il y a également dans certains cas les sortants de prison qui sont mal ou pas pris en charge par les SPIP, hein, vous savez, les services pénitentiaires d'information et d'éprobation. Et donc,
oui, dans le cadre de programmes de réinsertion
voilà,
professionnelle, sociale.
Exactement, disons qu'il y a des personnes qui trouvent plus à la maison des chômeurs que dans le cadre de leur réinsertion après une peine de prison, donc on les voit beaucoup. On travaille également marginalement, mais également avec la rue d'accès pour les toxicomanes. Mmh. Il y en a beaucoup qui viennent justement pour faire des démarches de réinsertion, de recherche d'emploi, ou même tout simplement des trucs basiques, hein, ne serait-ce qu'une demande de ce qu'on appelait avant la CMU, qu'on appelle désormais la CSS, hein, complémentaire santé solidaire. ce genre de démarche. Alors, c'est vrai qu'on a un cadre peut-être plus convivial que certaines structures, qu'on peut rentrer, se poser, éventuellement
Boire un café?
boire un café, bien sûr, discuter, mais un peu à la bonne franquette. C'est pas un cadre rigide. Et il y a un certain nombre d'activités parallèles que certains pourraient présenter comme ludiques, mais en fait pas du tout. Puisqu'en fait, ça permet ces activités, donc des ateliers, actuellement théâtre, mais il est un peu en stand-by avec ces histoires de confinement, mais on a les ateliers contes, l'atelier culture, on distribue des places, on a passé des conventions avec l'ensemble des théâtres de Montpellier.
Et des
Donc,
cinémas aussi, il me semble, non?
on a un cinéma également, mais également les festivals, bien sûr, hein, Montpellier Danse et compagnie, donc on a des places entre 4 et 6 euros. Donc c'est très intéressant pour les personnes.
Et vous mettez aussi à disposition des outils, notamment des ordinateurs connectés, c'est ça, pour que des personnes puissent faire des recherches d'emploi, par exemple, ou remplir des dossiers, des choses de ce type-là en ligne?
Voilà, exactement. Donc on a 7 ordinateurs en théorie, plus 2 en réserve, mais c'est vrai qu'en ce moment, il n'y a que 3 qui sont en fonction parce que j'étais obligé, pour cette histoire de distanciation sociale, de séparer les postes de 2 mètres. Heureusement, la salle est grande. Mais voilà, en temps normal, hors pandémie, hors problème de distanciation sociale, il y a entre 7 et 9 postes disponibles pour... Alors voilà, normalement c'est fait pour la recherche d'emploi, la recherche de stage, la recherche éventuellement de logement. Mais c'est vrai qu'en même temps on est tolérant, c'est-à-dire que la personne, parce que le lien social est important quand même. Donc on ne va pas demander à la personne de s'occuper exclusivement de sa recherche d'emploi. Si elle veut consulter sa page Facebook, sa boîte mail ou peu importe quoi d'autre, s'informer en ligne sur les actualités diverses. Voilà, on n'est pas très rigoureux. Donc c'est peut-être pour ça aussi que les gens aiment bien la maison des chômeurs, parce qu'ils s'assoivent, ils peuvent rester 1 heure, 2 heures, 3 heures, consulter ce qu'ils veulent voir. Donc voilà.
Donc ça veut dire qu'en fait c'est aussi un lieu d'accueil, c'est ça, des personnes, un lieu d'accueil bien sûr lié à une aide que vous essayez d'apporter, mais qui essaye le plus possible d'être un peu convivial, peut-être en rupture avec certaines institutions qui, elles, le sont un peu moins.
Oui, mais certainement. C'est peut-être pour ça que ça peut expliquer un petit peu notre succès.
C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que ça constitue beaucoup de personnes? Est-ce que c'est des personnes qui viennent juste occasionnellement comme ça? Ou est-ce que vous avez vraiment beaucoup de monde, beaucoup de demandes d'aide?
Alors, ça, je peux vous dire, c'est un peu particulier en ce moment. Parce qu'avec ces histoires justement de confinement, de distanciation, les gens n'y comprennent plus rien. Et lorsque vous êtes pris une amende à 135 euros et que vous touchez le RSA, sachant que 135 euros, ben, ça représente plus de 25% du RSA, et ça représente globalement l'enveloppe qu'on réserve à l'alimentaire. Donc, lorsqu'on se retrouve obligé de choisir entre payer le loyer ou manger, on n'a pas envie de s'en prendre une deuxième, donc on n'a pas trop envie de sortir. Les choses se savent vite à Montpellier, et donc il y a énormément de gens qui ne sortent plus du tout. Donc,
Alors.
ce qui fait que notre fréquentation a énormément baissé. Nous, en période normale, on va dire, en période de croisière normale, on a entre 30 et 35 personnes qui viennent journellement. Voilà, ce qui fait dire qu'à la fin de la semaine, on a, bon an, mal an, entre 120 et 150 personnes qui passent, voilà, donc par semaine. Donc, ça fait quand même pas mal de monde. Actuellement, c'est beaucoup plus difficile. Bon, là, effectivement, on a l'impression que ça se libéralise un petit peu. Actuellement, on est entre 12 et 15 personnes par jour.
Ce qui constitue quand même déjà
Eh bien,
un passage certes moins élevé qu'à l'habitude, mais quand même pas mal.
on est à moitié à peu près, hein, du.
Dans l'accueil, il y a différents types d'aide que vous apportez. Il y a les personnes dont on parlait tout à l'heure qui viennent chez vous. Il me semble aussi que parfois vous recevez, enfin régulièrement en fait, vous recevez sur rendez-vous pour traiter des dossiers très spécifiques.
Voilà, tout à fait. En fait, les dossiers un peu plus complexes à monter, hein. Mais d'ailleurs, ça peut être justement des recours à Pôle emploi,
Justement, j'en venais
hein.
là.
Justement, pour radiation abusive ou indue. Là, ça peut être un peu plus complexe. Alors, il y a ça, bien sûr, mais actuellement, par exemple, il y a cette histoire de prime exceptionnelle de solidarité qui devait être distribuée aux permittents, et qui a été distribuée d'ailleurs aux permittents dans un désordre complet.
De quoi s'agit-il, rapidement?
Ben, c'était une prime qui était allouée, qui était modulable en fonction justement des revenus des personnes, qui pouvaient au maximum, c'était de l'ordre de 900 euros, Et bon, pour en moyenne, c'est de l'ordre de 335-350 euros par personne. Alors, ce qui s'est passé, c'est que comme ils ont voulu répandre l'information, pour des raisons politiques évidemment, un peu trop vite, il se trouve qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas reçu leur dernier bulletin de salaire, et lorsqu'ils ont reçu ces bulletins de salaire, ils se sont aperçus que les personnes n'y avaient pas droit, mais les sommes étaient déjà versées. Vous voyez ? Il y a d'autres personnes qui avaient droit qui ne l'ont pas eu. Il y a des personnes qui l'ont eu, mais pas une fois. Il y en a certaines qui l'ont eu deux fois, d'autres trois fois. C'est complètement... C'est de la folie.
Donc on parle d'un gros cafouillage. Alors là, ces sommes sont versées par quel organisme ?
C'est versé, alors, l'organisme payeur, je suppose que c'est Pôle emploi. Mais encore une fois, il faut savoir des choses là-dessus. C'est-à-dire que les personnes dont on parle, ces permittents en question, ce sont des personnes qui, justement, travaillent selon des rythmes saisonniers, globalement. Donc ça peut être des gens qui sont des artistes, qui sont des musiciens, mais ça peut être aussi des employés de la restauration, des bars, etc. Donc ce sont des gens qui travaillent le samedi. Or, dans le plan, ils ont décidé de prendre en compte uniquement les jours du lundi au vendredi. Il y a cette histoire de jour ouvert, jour ouvré. Ce qui fait que les personnes qui travaillent le samedi et qui se reposent le lundi, donc du coup, on ne leur prend ni le samedi, ni le lundi. Donc, il y avait des personnes qui, normalement, ils pensaient avoir droit à la prime, ils ne l'ont pas eu.
Et surtout qu'il y a quand même un certain nombre de professions, enfin quand même pas mal, je veux dire, dans lesquelles on travaille justement les week-ends.
Oui, non, mais tout à fait. Donc, il y a certains cinémas, on a un peu l'impression, un peu que autour du cafouillage, ils ont dû prévoir une enveloppe globale. Ils se sont aperçus que peut-être que ça allait dépasser le montant de l'enveloppe globale et ils ont mis des restrictions. Enfin, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Il faut savoir également que ces personnes-là, donc ce sont des travailleurs précaires. Donc il faut savoir que très souvent, lorsque les allocations sont versées, le 5, le 6, ben, à partir du 10 du mois, leur compte est de nouveau à découvert. Mmh. Ce qui fait qu'ils ont versé cette prime exceptionnelle sur des comptes qui étaient à découvert. Maintenant, pour l'emploi, leur politique, c'est que toute somme indûment perçue doit être remboursée. Mais seulement, les gens ne peuvent pas rembourser ces sommes, puisqu'elles sont tombées sur des comptes à découvert. Le banquier refuse, puisque le compte de la personne est à découvert. Alors, lorsque la locataire va dire pour l'emploi, va me radier si vous ne me rendez pas la prime, mais le banquier dit non, moi je ne vous rends pas ça, votre compte est à découvert, pourquoi je vous donnerai de l'argent ? Donc ça met les gens encore plus dans les problèmes. Il y a une personne qu'on a rencontrée qui travaillait et qui était SDF. Elle a reçu deux fois la prime maximum, donc deux fois 900 euros, 1800 euros. Qu'est-ce qu'elle a fait ? La première chose qu'elle a fait, elle a pris un appartement. Et pas la totalité de la somme pour prendre l'appartement, mais il a acheté quelques meubles, les 1800 euros sont partis. Et il se retrouve, puisqu'il c'est un travailleur précaire, de nouveau à découvert. Maintenant, il y a Pôle emploi qui lui réclame de rembourser 1800 euros, et le banquier de la personne lui dit « Non, non, je ne vous donnerai jamais 1800 euros, votre compte est à découvert.
» Donc ça, on a une multiplication des cas comme ça, qui sont de personnes qui sont dans des situations très très précaires, et qui se retrouvent encore plus en difficulté à cause en fait d'erreurs des organismes payeurs. Et ensuite, qui les remettent donc du coup dans des obligations de rembourser alors qu'ils ne peuvent pas.
Voilà, parce que c'est leur politique, mais ils sont assez impitoyables, disons que sur ce sujet, ils demandent, ils proposent des échéanciers avec des montants de remboursement qui sont totalement intolérables pour les personnes. On dit, je vous propose de rembourser 300 euros par mois, pour quelqu'un qui en a 450, c'est totalement impossible.
Alors, tu veux intervenir, Claire, peut-être. On parle des permittants, juste ce terme-là, on va y revenir, parce qu'il va, je pense, vraiment nous intéresser dans cette partie de l'émission, mais aussi dans la deuxième partie de l'émission, puisqu'on abordera la question du travail aujourd'hui, des conditions de l'organisation du travail aujourd'hui. Claire, tu voulais intervenir.
Oui, je voulais intervenir parce que dans ce que Jacques dit, il y a plusieurs choses qui me semblent très, très importantes à pointer. Déjà, l'accompagnement des personnes en difficulté d'emploi, c'est central. C'est-à-dire que on est avec la Maison des chômeurs, on est dans une proposition d'accompagnement, et Pôle emploi c'est un endroit de contrôle. Donc on est et avec les primes qui sont versées par l'État là. Et le contrôle qui se fait derrière, on est dans prenez. Au fait, on a recontrôlé votre dossier. Maintenant, vous allez devoir prouver que vous y aviez droit. Et Dans tous les cas que moi j'ai pu accompagner, notamment beaucoup d'intermittents, dans des dossiers en cas de contrôle, etc., il y a d'abord radiation. Vous êtes sous contrôle, donc on va vous radier. Et pourquoi vous me radiez? Je veux bien être sous contrôle, mais ne me radiez pas, ne m'enlevez pas mes revenus. Si, si, on vous radie. Et vous allez devoir prouver que vous n'êtes pas en tort. Et alors ça, c'est quelque chose contre lequel on s'est battu pendant 3 ans, notamment au sein de la coordination des intermittents et précaires. Et donc, quand vous regardez, là, il y a le dernier papier de Mediapart sur Pôle emploi, c'est le médiateur de Pôle emploi qui vient de sortir son bilan annuel. C'est une catastrophe, justement, sur cette prise en charge. C'est-à-dire, Pôle emploi, depuis la fusion de l'ANPE et de la CEDIC, c'est une catastrophe. C'est un organe de contrôle.
Ça date de 2009. Hein, c'est ça, voilà. Oui.
L'ANPE, c'était l'accompagnement du chômeur. On était sur l'Agence nationale pour l'emploi. Donc, vous entendez bien pour l'emploi. Et puis, il y a le mot national. Mmh. Et puis, la CEDIC, ben, c'était l'indemnisation. Et ça dépendait de l'UNEDIC, qui est une association qui est gérée par, à l'époque, le CNPF, qui est le MEDEF aujourd'hui, et en premier lieu, c'était FO, maintenant c'est la CFDT. Donc c'est une organisation, c'est une, on va dire, une gouvernance paritaire qui gère la Caisse d'assurance chômage et donc, dont l'organe de mise en pratique est Pôle emploi. Mais avant, Pôle emploi, c'était 2 agences. Une qui était privée, donc qui dépendait de l'UNEDIC, qui était la CEDIC, et une qui était nationale, qui était l'accompagnement des chômeurs des personnes en recherche d'emploi pour l'emploi.
Et très concrètement, c'était ça. C'est-à-dire quand on se présentait à Pôle emploi, c'était pour un accompagnement, pour retrouver un emploi.
Pour retrouver un emploi.
Et c'était vraiment une aide à la personne.
Et on avait exactement. Citoyens. On avait des agentes et des agents qui étaient des conseillers et des conseillères et qui prenaient le temps. Voilà. Aujourd'hui, avec cette fusion, on sait, enfin, dès qu'on s'y intéresse un petit peu, à quel point Pôle emploi est devenu un organe de contrôle complètement dématérialisé, avec un système informatique qui va enregistrer les données. Donc, pratiquement tout est géré par ordinateur. Et donc, s'il y a un problème dans le dossier, des alertes qui sont mises en place, s'il y a une incohérence, vous recevez automatiquement des courriers. Et donc, le médiateur en parle dans le dernier papier dans Mediapart. Vous recevez des courriers d'une violence inouïe. Une violence, oui. Vous êtes radié, vous êtes coupable, vous allez devoir prouver que. Donc, on installe un climat de peur et de contrôle.
De contrôle, c'est ça.
Ouais.
Alors, on pourrait, certains, multiplier les exemples. C'est intéressant que vous puissiez dire ça, et même le nombre d'exemples, je sais que l'un et l'autre, vous en avez des tonnes et des tonnes. On pourra bien évidemment peut-être en citer quelques autres. Parce que ce point que tu soulignes, Claire, c'est un point important. C'est-à-dire cette transformation de Pôle emploi, de l'ANPE, effectivement, en 2009 en Pôle emploi, est devenu effectivement un lieu de contrôle et plus du tout d'aide du tout, quasiment.
Ils mettent en place des outils, mais après.
Ils mettent en place des outils, mais c'est des outils qui sont quand même difficilement. Utilisable concrètement. En fait, c'est surtout effectivement un envoi de courrier pour radier des personnes, pour dire ce genre de choses. Enfin, c'est ce dont vous témoignez souvent. Et donc, je me tourne très vite vers Jacques. Cette maison des chômeurs dont vous vous occupez ici à Montpellier, c'est ce qui vient prendre le relais en quelque sorte. Est-ce que je me trompe en disant ça comme ça? Le relais justement à cette aide qui a disparu auprès des personnes.
Oui, bien sûr, parce qu'on n'est pas uniquement, on ne vient pas uniquement en aide aux personnes, on a également un côté militant. Alors c'est vrai que nous, au niveau fédéral, au niveau du MNCP, on rencontre périodiquement Jean-Louis Walter, le médiateur national. Hier ou avant-hier, on a envoyé un courrier conjointement à Jean Basser, le directeur national de Pôle emploi, et au directeur de la CNAF, pour leur dire qu'on était vraiment horrifiés des types de courriers que recevaient les allocataires, de ce qu'on leur demandait de rembourser. Alors bon, c'est vrai que la situation est complexe, comme disait Claire tout à l'heure. C'est vrai que lorsque Sarkozy a décidé de fusionner les deux dispositifs à CEDIC et ANPE en 2008-2009, il a imposé également une clause de plus. Il a imposé que le financement de la nouvelle structure fusionnée pour l'emploi, que 10% à l'époque parce que depuis ça a monté, bien sûr, 10% du financement de Pôle emploi soit pris en charge par les allocataires, enfin, par le budget des allocataires. Alors il faut savoir que ce sont les salariés qui cotisent, qui cotisaient, puisque maintenant il ne reste que la part patronale.
Il y a les salariés du privé, hein, en plus.
Oui, c'est ça, bien sûr, tout à fait. Alors, donc, il faut voir si c'est une assurance, un peu comme une assurance auto. Essayez un peu de concevoir ça. Vous avez une voiture, vous assurez votre voiture, vous avez un sinistre, et l'assureur vous dit « Non, non, je ne peux pas vous payer, parce qu'on s'est servi de l'argent pour faire autre chose. » Donc, c'est exactement ce qui se passe actuellement. Il faut financer Pôle emploi. Ensuite, on vient nous dire que l'assurance chômage est en déficit. Mais non, elle n'est pas en déficit. Elle est en déficit parce qu'on paye une partie du financement de Pôle emploi. Vous voyez ? Donc, il y a tous ces problèmes qui arrivent. Alors voilà, nous, de notre côté, donc, je vous dis, on envoie des courriers, on essaye de rencontrer les gens, et on essaie même de rencontrer le ministère ou le ministre ou la ministre du Travail. Mais c'est assez compliqué en ce moment parce que les décisions qui sont prises, on n'a pas l'impression qu'ils sont vraiment très compétents dans leur domaine, parce qu'en fait, c'est vraiment fait au doigt mouillé. Alors, il faut savoir, par exemple, qu'à l'époque de la CEDIC et de la NPE, les personnes étaient embauchées sur concours. Et une fois qu'ils étaient embauchés, ils avaient une formation de 6 mois. Maintenant, depuis qu'ils ont fait la fusion, ils ont supprimé le concours, les gens ils sont simplement reçus dans un bureau, et si la personne leur convient, ils sont embauchés, et ils ont une formation d'une semaine. Et parfois moins, sinon pas le temps. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des contrôleurs ou des conseillers pas forcément compétents. Et parfois, c'est l'allocataire qui est plus compétent que le conseiller ou que le contrôleur.
Exactement. Nous, souvent, on dit...
Claire.
Souvent, on dit, qu'est-ce que tu as eu comme info ? Ils t'ont dit ça, ils te disent n'importe quoi. Donc, soit il ou elle est mal formé, soit elle a ordre de radier ou d'être dans une mésinformation pour pouvoir noyer le poisson et empêcher d'aller plus loin dans le recours ou la requête. Donc, rappel. Tu rappelles jusqu'à ce que tu aies la bonne information. Parce que la bonne information, c'est celle-là. Et donc, il faut que ce soit adoubé par le conseiller ou la conseillère pour que ce conseiller ou cette conseillère puisse appuyer sur le bon bouton. Parce qu'ils ont le bouton magique qui règle le dossier, au final. Ils l'ont. Mais il faut aller quelquefois le chercher longtemps. C'est un peu ouvrir des portes, la refermer, aller au bout du couloir, en ouvrir une autre, etc. Donc, en fait, c'est complètement inégalitaire, on est d'accord ? C'est discriminatoire. Ce que tu dis, Jacques, sur le manque de formation, c'est patent, en fait. C'est vraiment patent. Et alors, dans les agences régionales, si tant est qu'on ait une situation un peu complexe, qu'on cumule 2 ou 3 sources d'emplois différentes, on va avoir des gens qui sont complètement perdus. Donc, nous, on devient, quand on est dans l'intermittence de l'emploi, dans l'emploi discontinu, dans voilà, l'activité partielle, on devient les experts, les expertes de nos propres, de nos métiers, bien sûr, mais de la gestion de nos dossiers. C'est ce qu'a fait la CIP en naissant en 2003. Et c'est-à-dire, on a poussé les gens à se former eux-mêmes. On s'est auto-formés entre nous pour devenir les experts de nos dossiers, qui sont éminemment complexes. Tout l'emploi discontinu est complexe. D'ailleurs, le dernier papier de Walter, là, dans Mediapart, dit ça. Dit, si vous ne connaissez pas les rouages de Pôle emploi, des aides qui peuvent vous être attribuées, si vous ne les connaissez pas vous-même, vous risquez de vous retrouver dans une panade noire.
Alors, on est effectivement, comme tu le soulignais tout à l'heure, du coup, dans une situation très inégalitaire, parce que si on a et le temps, et les moyens, et le courage, tout s'accumuler, je veux dire, de s'occuper de son dossier, c'est-à-dire devenir expert, effectivement, de ces rouages un peu complexes, que sont ceux des indemnisations, ici pour le chômage, si on n'a pas tout ça, en fait, on abandonne. Et
oui.
On peut considérer qu'il y a une part très, très importante de ce qu'on appelle le non-recours à l'aide, qui fait que des personnes, en fait, sont sans aucune aide et n'ont plus aucune indemnisation.
Ah, clairement, hein. Clairement, il y a des gens qui ne demandent pas d'aide. Soit ils ne savent pas qu'ils y ont droit. Donc là, c'est encore le problème de l'information, de l'employeur. On va dire aussi d'un accompagnement syndical au niveau sur le lieu de travail, qui est de plus en plus rare. Surtout quand on est dans une PME, les délégués syndicaux, il n'y en a pas forcément. Tout le monde ne vous explique pas quand vous arrivez quelle est la nature de votre contrat. Si vous êtes en contrat court, en CDD, vos droits à la formation au secours. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans les nouvelles pratiques d'emploi qui sont gravissimes. Dans le manque d'accompagnement des gens. Donc en fait, beaucoup de gens ne demandent pas, soit parce qu'ils ne savent pas, soit parce qu'ils n'ont pas envie de se taper le bordel, en fait. Enfin, excusez mon français. Mais... Et ça entraîne tout. Voilà, un recours. Donc les gens préfèrent aller travailler au black, se démerder autrement. Pas demander leurs droits. Donc il y a beaucoup de gens qui s'assoient sur leurs droits. Donc quand l'UNEDIC nous dit on est en déficit, je suis morte de rire parce qu'ils rémunèrent pas, ils indemnisent pas du tout à hauteur de ce qu'ils devraient indemniser. Donc il faut soit changer de façon de faire, mais ça vient d'un problème de gouvernance et pas c'est pas les chômeurs et les chômeuses qui creusent le trou.
Alors, je sais qu'il y a des études qui ont été faites sur ce non-recours aux droits. Vous avez une idée de la proportion de personnes à peu près qui...
Oui.
Oui, Jacques.
Les chiffres globalement, c'est en gros, c'est en catégorie ABC, il y a 6 millions de chômeurs recensés. Plus les deux catégories D et E, il y a 675 000 chômeurs recensés. Donc au total, 6 675 000 recensés.
Donc ABC, juste pour bien préciser aux personnes, A, donc c'est les personnes qui ne travaillent pas du tout.
Ils sont en permanence à la recherche d'un emploi.
Ils sont à la recherche d'un emploi, temps complet, etc., etc. Ensuite, la catégorie B, ce sont les personnes qui ont travaillé, je crois, moins de 78 heures et qui sont à la recherche d'un emploi payé à temps complet.
Donc, catégorie B,
oui. C'est ceux qui ont travaillé plus de 78 heures et qui sont toujours à la recherche.
Qui a explosé de 325% en 12 ans.
Voilà, exactement. Et donc, il y a ces 675 millions de chômeurs. Mais... sur ces 6 675 000, il y en a 43% qui ne sont pas rémunérés. Ça, c'est déjà une chose. Ensuite, il y a une part très importante de chômeurs ils savent qu'ils n'ont droit à rien, donc ils ne s'inscrivent pas. On n'a pas vraiment de statistiques officielles sur ces chiffres-là, mais avec nos associations, on fait une statistique à la louche et on arrive à 9 millions de chômeurs en tout. Alors, je ne sais pas combien il y a de salariés potentiels en France, je crois que c'est de l'ordre de 35 ou 37 millions, ce qui veut dire qu'on a un chiffre supérieur à 25% de personnes qui seront en dehors de l'emploi à temps complet, en tout cas.
9 millions, tout compris ? Enfin, avec les 6 millions dont tu parlais ou,
voilà, donc d'accord. Les 6 675 000, plus les personnes non recensées, donc ça fait environ 9 millions. Mmh. Mais sachant que sur ces 6 675 000, il y en a 43% qui ne sont pas indemnisés.
Mmh. Bon. Même chose pour l'intermittence.
Oui.
On est à peu près 260 000 intermittents, on est 118 000 indemnisés. Voilà.
Mmh. On voit déjà qu'il y a, il y a peut-être certaines choses quand même qui marchent plus ou moins, disons, on va dire que... Mais là, il y a quand même beaucoup, beaucoup de problèmes qui ne sont pas du tout réglés et qui touchent beaucoup de monde quand même. Je voudrais en venir au cœur de notre sujet aujourd'hui, qui est celui de la réforme de l'assurance chômage qui est annoncée pour le 1er juillet qui vient. Tout ça, c'est des choses souvent très techniques, très compliquées. La plupart des gens, comme je disais en introduction, souvent, ça leur échappe. Ils ont du mal à comprendre et on les comprend. D'ailleurs, il faut vraiment se plonger, passer beaucoup de temps pour comprendre tout ça. Vous, l'un et l'autre, vous êtes, si je peux m'exprimer ainsi, des experts, plus ou moins, c'est-à-dire au sens où vous avez beaucoup travaillé dessus, c'est-à-dire un peu plus experts en tout cas que la moyenne des personnes qui ne regardent pas ces dossiers. De quoi s'agit-il, cette réforme de l'assurance chômage qui est annoncée pour le 1er juillet? On sait que il y avait le premier volet déjà qui était passé en novembre 2019 et le second volet qui était prévu pour le 1er avril 2019 à cause de la crise a été repoussé et le voilà qui arrive donc ce 1er juillet de 2021. De quoi s'agit-il en fait?
Alors, si Claire. Je peux me permettre, je vais commencer par une courte introduction qui peut-être clarifiera les choses. On a parlé de catégorie A, B, C, D, E. De catégorie de chômeurs.
Mmh.
À l'intérieur du régime général, donc on est tous dépend, dont on dépend tous, il y a ce qu'on appelle des annexes. Ce qui s'est passé en 2014, parce qu'on n'a pas parlé de 2014, et ce en quoi le mouvement unitaire, par exemple, qui est le nôtre, qui est présent au centre chorégraphique, est né. Il est né aussi de Culture en danger, donc le mouvement de 2003, et puis de la CIP, et puis du CINAVI, et puis voilà, toutes sortes de choses entre 2003 et 2014 qui se sont passées. Ce qui fait qu'en 2014, quand est arrivée la nouvelle réforme avec les droits rechargeables, on était en mesure, nous, de comprendre ce qui était en jeu sur du long terme. À savoir que ce qui allait disparaître, alors déjà ce qui était mis en place, c'était cette espèce de droit rechargeable. On ne sortait jamais, jamais, jamais de nos droits, puisqu'il était tout le temps rechargé. Alors, très, très bien pour certaines catégories de chômeurs.
Donc c'est ça ce que
et
ça veut dire.
Pour l'emploi discontinu, c'était la catastrophe.
Droit rechargeable, c'est ce que ça veut dire.
Voilà.
Ça veut dire que
droit rechargeable. Mmh. Les histoires de plafond, et de plancher, je vous épargne parce que c'est trop compliqué, on arriverait dans quelque chose de trop technique. Mais ce qui était en jeu, c'était la disparition de l'annexe 4. Parce que voilà, on a des annexes dans le régime général qui sont des droits spécifiques, qui sont pensés, qui ont été pensés à qui, hein, grâce à des luttes sociales, à partir du terrain de l'emploi et donc du métier. Aujourd'hui, travail, emploi et métier, ce sont trois choses distinctes. C'est-à-dire qu'on peut travailler tout le temps, être très peu employé et avoir un métier. Et travailler et être employé autrement que dans son métier, mais en même temps travailler avec son métier, ne pas être rémunéré. Vous voyez, alors qu'avant, l'idée, c'est qu'on a un métier, on est employé, on fait son travail. Et cette chose-là, elle est très éparse, elle est très éclatée aujourd'hui. Donc les annexes, elles servent à être des remparts face à une paupérisation, puisque, de fait, on est dans l'emploi discontinu. L'annexe 4, c'était l'annexe des intérimaires, des saisonniers, de tout l'emploi discontinu qui n'était pas le spectacle. Okay ? Mais on a aussi l'annexe 2, qui est l'annexe des bûcherons, okay ? qui est spécifique. C'est-à-dire qu'on a des annexes. Voilà. Les gens du spectacle, c'est l'annexe 8, pour les techniciens, tout le personnel de technique, hein, et l'annexe 10 pour les artistes. Alors, il y en a d'autres, hein, ça va jusqu'à 12, je crois. Il y a des annexes spécifiques. Ça prend en compte quoi ? La réalité de l'emploi et des métiers. Pourquoi est-ce que l'intermittence a été créée ? C'était pour garder les compétences des métiers. Parce que les gens, quand ils avaient fini un tournage, bah, ils retournaient faire des décors ailleurs, construire des maisons, et on perdait la compétence sur les tournages. C'est ça, c'est pour ça que l'intermittence a été créée, les annexes 8 et 10. C'est pour garder les compétences à l'intérieur même des métiers. Donc aujourd'hui, on vous dit, vous êtes des privilégiés de je ne sais pas quoi, etc. Nous, on savait en 2014 que l'annexe 4 allait partir. Pour réunir les intérimaires, les saisonniers autour d'une lutte au secours, vu l'emploi, vu la disparité des métiers, justement. C'est pas un statut, enfin c'est un régime spécifique qui va regrouper des plaquistes, des restaurateurs, toutes sortes de gens qui ne sont pas fédérés, qui sont pas corpos quoi. Nous la chance qu'on a dans les annexes 8 et 10, c'est que on fait les mêmes métiers, on est dans des formes d'entreprise. Donc en fait il y a une forme de corporatisme, une forme de fédération autour de nos droits. Donc qui passe, c'est-à-dire qu'on peut nous se renseigner les uns les autres, ok ? On est en réseau, on n'est pas très très nombreux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2014, quand l'annexe 4 allait disparaître, nous, avec des mouvements de grève, on était sur ce décryptage d'assurance chômage et on essayait de faire de la convergence vers d'autres personnes. C'est là où on s'était rapproché de la maison des chômeurs d'ailleurs, mais ça a été très très compliqué. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que nous, on est si attachés au régime général, on est si attachés à étudier ces réformes, alors qu'on est intermittent, on pourrait se dire, on s'en fout, on a une année blanche, ok ? Eh bien, on sait très bien qu'on saura, si cette réforme passe, et peut-être Jacques, je devais te laisser le soin de l'expliquer, la prochaine annexe, l'annexe 4 a disparu en 2014, si on attaque l'emploi discontinu à ce point, si on précarise à ce point l'emploi discontinu, les prochains à sauter, à aller dans une caisse privée ou autre, eh ben c'est nous. C'est les gens du spectacle.
D'accord. Donc cette notion d'emploi discontinu, on va réaborder cette question dans la deuxième partie de l'émission. Mais il devient quand même très très important aujourd'hui. Il touche, il touche un nombre quand même considérable de secteurs.
Une explosion de 325% de la catégorie C, c'est-à-dire des gens. Alors moi, je suis catégorie A parce que je suis toujours à la recherche d'un emploi. Je suis intermittente du spectacle, donc c'est un corps particulier. Mais par exemple, la catégorie C du régime général, ce sont des gens qui travaillent, comme disait Jacques, plus de 78 heures par mois. C'est-à-dire qui ont un volume d'emploi entre 78 heures et on va dire 260 heures, hein, au max. Cette tranche a explosé entre 1995 et 2017. 325%. On est majoritairement dans l'emploi discontinu en France par rapport à un emploi continu. Donc on ne peut pas toucher cet emploi-là avec cette réforme. Ça va être une catastrophe puisque c'est la majorité des travailleurs.
Non, c'est ce que je disais à l'instant, c'est ce qui devient la norme.
Ouais.
Voilà. Donc puisque ça devient la norme, ça veut dire qu'il faudrait peut-être quelque chose d'adapté à cette norme. On va y revenir peut-être juste après.
Ouais.
Jacques, oui, tu veux préciser sur ces points-là, justement, ce que disait à l'instant Claire.
Écoutez, très rapidement, en complément de ce que vient de dire Claire, effectivement, toujours dans les annexes à la convention UNEDIC, parce que ça représente quand même pas mal de personnes, ce sont les assistantes maternelles, il y en a vraiment beaucoup. Alors, si elles n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes, il faut qu'elles sachent que justement leurs droits ne se trouvent pas dans la convention générale, mais dans les annexes. C'est là qu'elles doivent chercher. Donc, il ne faut pas se décourager en disant je ne suis pas représenté. Si, 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 mais c'est dans les annexes.
Parce Donc, qu'il faut... c'est presque un conseil là, qu'on doit donner aux gens, s'ils doivent se renseigner,
exactement.
Qu'ils aillent chercher dans les annexes. C'est souvent justement ce qu'on ne veut pas regarder. On se dit c'est des... Alors qu'en fait, c'est quasiment central.
Voilà, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle, donc dans les annexes, le droit multi-employeur. C'est-à-dire, imaginez la psychologie des gens de Pôle emploi quand même. Hein. Donc, dans leur portefeuille de clients, c'est comme ça qu'on parle de Pôle emploi. C'est comme ça. La locataire, c'est un client. Et l'ensemble des allocataires sous la responsabilité d'un conseiller, ça s'appelle un portefeuille.
Moi, je dirais un patient, mais...
Et donc, voilà. Alors, donc, c'est relativement compliqué à gérer. Alors, il faut savoir que, donc, dans ce droit multi-employeur, donc, je vous parlais des assistantes maternelles, mais également les VRP, les vendeurs représentants professionnels, qui, eux, travaillent avec plusieurs entreprises. Qui vendent chacun un produit spécifique. Ce qui fait que lorsqu'ils rompent un contrat avec un employeur, ils perdent un patron. Et donc, lorsqu'ils perdent un patron, il y a Pôle emploi qui prend le relais et qui verse un complément pendant le moment où le VRP recherche un autre fournisseur. Et lorsqu'il retrouve cet autre fournisseur, Pôle emploi s'arrête et il se trouve comme ça. Et les assistantes maternelles, c'est pareil. On estime que les parents sont des patrons. Et lorsque l'assistante maternelle perd un parent, pour diverses raisons, la personne est mutée ailleurs, ou peu importe, le personne au boulot, elle ne peut plus payer, là, également, Pôle emploi prenait le relais. Donc voilà, ça c'était pour participer un peu au chapitre des annexes. Sinon, c'est vrai qu'au niveau de la modification de la convention, donc, alors ça devient très compliqué, là on parlait d'incompétence tout à l'heure, ils n'arrêtent pas de revoir leur copie, là ils ont mis finalement un plafond à la chute des allocations qui va s'opérer donc à partir du 1er juillet.
Alors, oui, pardon. Alors justement, venons-en. Essayons, en tout cas, c'est compliqué, hein, on est d'accord, on n'a pas assez de temps, il nous faudrait peut-être plusieurs heures, en essayant de ne pas fatiguer non plus les auditeurs, c'est compliqué, mais essayons de venir à, vraiment très, très concrètement, cette réforme, elle annonce quoi? Pourquoi elle est inquiétante? Alors, vous l'avez vaguement suggéré déjà, mais concrètement, qu'est-ce qui va changer vraiment et qui doit pouvoir inquiéter les chômeurs actuels ou les futurs chômeurs?
Alors voilà, c'est assez simple finalement, enfin c'est assez simple et en même temps compliqué, mais je peux l'expliquer simplement. Jusqu'à présent, lorsque vous travaillez, donc mettons que vous avez travaillé 2 jours dans la semaine, deux jours dans la semaine, mais vous travaillez par exemple 3 mois, peu importe.
Donc pendant au moins tout simplement 2 jours par semaine.
Voilà, on va faire le calcul sur une semaine parce que c'est plus simple. Donc lorsque la personne perdait son emploi, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait le total des salaires perçus pendant la durée du contrat de travail et on divisait par le nombre de jours travaillés. À l'occurrence, 2 jours par semaine. Si vous avez travaillé en mois, ça faisait 8 jours dans le mois de travailler, 4 semaines de 2 jours. Mmh. Et donc on divisait la totalité de ces salaires par le nombre de jours travaillés, on arrivait au salaire journalier de référence. On multipliait ce salaire journalier de référence par 57 et on arrivait à l'allocation journalière. Maintenant, on ne part plus. La personne a toujours travaillé 2 jours dans la semaine et donc pendant 3 ou 6 mois. Peut-être.
Donc même situation.
Oui. Même situation. Seulement maintenant, la totalité des salaires perçus ne sera plus divisée par le nombre de jours travaillés, mais par le nombre de jours calendaires. Donc 5. Au lieu de diviser par 2, on travaille par 5. On divise par 5.
Bon.
Donc là, il y a déjà pas mal de pertes. Alors ça, c'est le premier calcul qu'on peut faire.
Si on doit retenir quelque chose, c'est que la division n'est pas la même.
Ah non, ça n'a rien.
On divise une fois par deux, c'est ça, et une autre
fois par
cinq.
Deux, ou deux fois deux ou deux et demi, hein, sur le cas. Enfin, dans mon exemple, hein, parce que ça peut être bien pire.
Oui.
La deuxième chose, c'est que avant c'est quoi, si vous avez un contrat de travail de 3 mois, peu importe la durée, il s'arrête et vous enchaînez avec un autre contrat de 3 mois, donc 6 mois. Donc, vous allez avoir, à plein temps, 6 mois, vous allez avoir donc les allocations à tout plein. C'est normal. Maintenant, vous travaillez 3 mois, vous êtes 6 mois au chômage, et vous retravaillez 3 mois. Vous voyez ? Au lieu de diviser le total, ça fait bien 6 mois dans les deux cas. Hein. La personne, a travaillé 2 fois 3 mois, ça fait 6 mois.
Sauf que là, il y a une interruption.
Mais là, il y a une interruption de 6 mois entre les deux. Sauf que, pour la deuxième personne, au lieu de travailler par 6 mois, c'est-à-dire de diviser par 180 jours, on va diviser par 360 jours. Donc, parce qu'il y a ces 6 mois qui sont intercalés.
C'est-à-dire qu'on inclut ces jours de pause dans l'emploi.
Les jours chômés, oui.
C'est des jours chômés, on les inclut
dans
l'opération.
On les inclut dans le calcul. Et donc, comme il y avait des différences énormes, c'était colossal, on arrivait à des différences d'un facteur de 25. Entre une personne à droit égaux, hein, au départ, quoi. Donc, il y en avait une qui allait toucher 80 euros, alors que l'autre, elle a touché 1700 ou 1800. C'est des trucs complètement aberrants. Alors, comme je vous dis, comme ils font des lois au doigt mouillé, ils ont mis récemment quelques barrières pour qu'il n'y ait pas trop d'écart, quand même.
Ils ont réajusté un plafond.
Mais... voilà. Mais c'est complètement incohérent. Il faut simplement supprimer cette réforme absurde et en refaire une autre cohérente.
Oui, qui soit clair, en lien surtout avec l'état actuel du chômage. C'est-à-dire qu'il faut effectivement repenser l'emploi, l'accompagnement vers l'emploi et puis les formations. Quand vous voyez que votre compte personnel de formation, enfin que les droits à la formation sont réduits à peau de chagrin, qu'ils ont été capitalisés. Voilà, on est la formation, clairement. Voilà, quand on passe de la mutualisation à la capitalisation, tout le monde a le droit à la même chose. Sauf que là, avec la capitalisation des droits, le compte personnel de formation, plus tu travailles, plus tu as tes droits. Ils sont à toi, ils sont accessibles, c'est à moi, je te les prête pas, quoi. Je te les partage pas. Si on sort du système de solidarité, on est mort. C'est ça. C'est là-dessus qu'on lutte, en fait. On ne veut pas renoncer aux droits sociaux acquis.
Donc concrètement, cette réforme annonce
déjà complètement discriminatoire, elle est complètement inégalitaire. Pour moi, elle va être retoquée au Conseil d'État. J'en suis certaine, ce n'est pas possible qu'elle passe. Si elle passe, moi je vais faire la révolution, quoi. C'est pas possible. Non mais c'est dégueulasse, c'est absolument inégalitaire, discriminatoire. Enfin, et encore, on épargne tous les détails techniques. Mais ce plafond, ce satané plafond qu'ils ont relevé un petit peu, ne permettra pas aux gens de sortir de la pauvreté. En fait, c'est une réforme qui va créer des cohortes de chômeurs dociles. En fait, l'idée, c'est, voyez, vous travaillez 3 mois plus 3 mois, vous avez droit à 6 mois d'allocation, ok ? Vous travaillez 3 mois, vous chômez 3 mois, vous travaillez 3 mois, et vous rechômez 3 mois, tout d'un coup, c'est plus du tout la même chose. Vous avez moins, parce que c'est mal, vous n'avez pas travaillé. Donc en fait, on va obliger les gens à prendre n'importe quel... C'est ce qu'ils essayent de faire depuis 20 ans, hein. D'inciter les chômeurs à prendre n'importe quel emploi. Ils ont essayé en disant, si vous refusez 3 fois un emploi, vous serez radié, etc. Ils n'ont jamais réussi véritablement à le mettre en place. Sauf qu'il y a eu des radiations, hein. Mais là, l'idée, c'est, tu n'as pas travaillé pendant 3 mois, c'est mal. Donc, on va te couper tes... C'est exactement comme on vous sert un verre de vin, tout d'un coup, on vous rajoute ça d'eau. Pourquoi ? Pourquoi tu me rajoutes de l'eau ? Enfin, pourquoi est-ce que tu dilues mon allocation ?
Donc ça risque, par exemple, dans l'exemple que tu donnais tout à l'heure, par exemple, de faire perdre justement certaines personnes qui vont... Tu parlais de certains métiers du spectacle, par exemple, certains qui vont travailler, faire n'importe quoi, disons, on va dire, pendant 3-4 mois, simplement parce qu'il leur faut travailler, genre qu'ils vont devenir maçons ou je ne sais pas quoi.
Ils vont refaire des apparts.
Alors que leur travail, c'est de faire autre chose, ou inversement, voilà, c'est-à-dire accepter n'importe quel... N'importe quel
job, et puis tomber au régime général, tomber au droit rechargeable, tomber dans cette réforme, c'est-à-dire que là, on arrive sur la question du droit d'option, qui est encore un très vaste sujet qu'on peut dater de 2014, la disparition du droit d'option, qui était toujours là avant. On avait le droit de changer d'une catégorie, d'une annexe à une autre, par exemple. On avait le droit de passer du régime général à l'intermittence, si on le voulait, si on avait les... enfin, les capacités de pouvoir rentrer, enfin faire les demandes pour cette annexe. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir ce droit d'option. Il a disparu, on s'est battu pour qu'il revienne. Maintenant, c'est des conditions pour le retrouver. Le droit d'option, c'est pouvoir changer d'être d'une annexe à une autre. Voilà. Et cette chose-là, elle va être impossible. Parce qu'il y a une baisse, donc, ce que disait Jacques, c'est modification du calcul du salaire journalier de référence. Modification du plafond qui est basé sur votre salaire journalier de référence et non plus sur un plafond qui cumule salaire et allocation. Donc ça vous maintient toujours à un certain niveau, quoi. Et surtout, donc baisse de l'allocation journalière à cause de ce nouveau calcul de salaire journalier de référence que expliquait Jacques et allongement des droits dans le temps. Ok. Donc ça effectivement, on vous donne le même capital. Le même nombre d'allocations, enfin, le même capital d'allocation, mais on va baisser pour que ça aille plus loin dans les dons. Donc, en fait, comme votre plafond vous empêche de dépenser tous vos droits, tout votre capital de droits, puisque vous ne pouvez pas dépasser un certain plafond, et que donc vous avez des droits gardés dans une espèce de besace comme ça, et tant que vous n'avez pas épuisé ça, ben, vous ne pouvez pas véritablement demander. La chose est tellement basse, le coût. Enfin, le montant de l'allocation est tellement basse que pour avoir un droit d'option, par exemple, vous devez justifier de 30% au moins de supérieur. Enfin, c'est très compliqué, le droit d'option. Ouais, je vais peut-être arrêter. Oui, mais disons que, en gros, il faut savoir, les intermittents doivent se pencher là-dessus, comme ça, ils verront bien. En gros, avec cette nouvelle réforme, les intermittents qui, pour X ou X raisons, auraient perdu leur droit à l'intermittence, donc ne seraient plus dans les annexes, ou étaient primo-entrants et avaient fait cumuler du régime général pour pouvoir payer leur loyer, ne pourront plus rentrer dans l'intermittence. Donc ça va devenir une espèce de niche pour gens qui travaillent, déjà.
Donc, on arrive un peu au terme de cette première partie. Donc, donc aujourd'hui, vous êtes d'accord sur le fait que cette réforme ne doit pas passer, enfin qu'elle est profondément inégalitaire, c'est ça. Est-ce qu'il y aurait des alternatives? Nous allons l'aborder aussi dans la deuxième partie de l'émission, mais est-ce qu'il y aurait des alternatives possibles? Est-ce que vous proposez autre chose? Il me semble que il y a peut-être des options. Soit on garde tout tel quel, est-ce qu'il y a quand même des changements à opérer qui pourraient être bénéfiques?
Écoutez, le meilleur changement à opérer, ça serait quand même de créer massivement de l'emploi. On sait très bien que la France est en miettes, il suffit de voir tout, il est en miettes. Hein. On perd des droits tout le temps parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les chômeurs perdent des droits constamment depuis nous en tant qu'association et même en tant que fédération depuis 86, on voit qu'on recule sur tout constamment. On a des petites victoires mais minuscules comme en 2004 avec les recalculés. Donc c'était encore les recalculés déjà assez décalés à l'époque et à l'époque on parlait du PAR. C'était le plan d'accès et de retour à l'emploi, qui a été transformé avec le même contenu maintenant en PPAE. Hein. Enfin bon, peu importe. Donc on recule constamment. D'ailleurs, à cette époque du PAR, un jugement du tribunal d'Aix, je crois, avait cassé la décision de Pôle emploi. Hein. Et donc, pour nous, c'était une grande victoire. Parce que,
c'était jurisprudence, ouais.
Voilà, et donc on avait... Ils avaient supprimé ce droit-là, ce qui fait que les chômeurs étaient rentrés de nouveau dans leurs droits. Parce qu'en fait, comme ils avaient recalculé leurs droits, il y avait plein qui perdaient 30 ou 40% de leur allocation. Mais, comme quoi, c'est des petites victoires. Parce que 3 ans après, il y a Pôle emploi qui avait fait appel. Enfin, Pôle emploi, les ACD qui avaient fait appel. Et ils ont gagné un appel. Ce qui fait que la mesure est malgré tout passée. Vous voyez ? Alors, de temps en temps, on fait des petites actions comme ça, on attaque une convention, la dernière fois, c'est le Conseil d'État qui avait retoqué la convention, mais ce qu'on fait sortir d'un côté, ça rentre par la fenêtre. Voilà.
On fait des recours de temps en temps à Pôle emploi directement, c'est-à-dire sur certains dossiers, on envoie Pôle emploi au tribunal administratif, et souvent... Très, très souvent, il perd, Pôle emploi.
Alors, je vous remercie.
C'est très long. Il faut aussi avoir des gens qui veulent faire ce recours-là.
Je vous remercie beaucoup tous les deux. Désolé, on est limité par le temps. Il y a une deuxième partie de cette émission dans un instant. Jacques, on n'a pas le droit d'être à plus de 3 dans un studio. Donc, on va tourner. Donc, on va te dire au revoir. Jacques, on te remercie beaucoup d'être venu.
Je voulais juste parler du nouveau modèle, puisque tu demandais... C'est, en deux mots, regardez nouveau modèle, coordination intermittents et précaires. C'est une proposition économique pour faire deux annexes. Une annexe pour l'emploi continu, une annexe pour tout l'emploi discontinu. Et c'est quelque chose qui se travaille depuis 2014, qui est chapeauté par des économistes, des politiques, rancières, etc. Voilà. Donc on peut vraiment... Il y a des choses qui marchent, qui pourraient marcher aussi pour le chômage. Et après, pour l'emploi, effectivement, ben on va en parler, on va parler du travail, là. Mais évidemment, créer de l'emploi, accompagner... des gens dans leur parcours de vie, d'emploi et de non-emploi, ou d'emploi discontinu, et puis avoir quelque chose de vertueux au niveau de l'indemnisation qui arrête de contrôler à outrance.
Ok, merci beaucoup, beaucoup à tous les deux. Enfin, on se retrouve dans un instant. Merci Jacques, au revoir.